France Inter. Nicolas Demorand, le 7-9.
Et nous recevons ce matin, avec Léa Salamé, le secrétaire d'État au numérique. L'actualité qui concerne son secteur est extrêmement riche, on va le voir. Dialoguer avec lui au 01 45 24 7000 sur les réseaux sociaux et l'application mobile France Inter. Bonjour Mounir Majoubi.
Bonjour.
La violence et la haine, le racisme et l'injure, le harcèlement en ligne ne sont pas des phénomènes nouveaux sur Internet, mais ils prennent de l'ampleur à mesure que l'emprise du numérique progresse sur nos vies. Le gouvernement veut agir sur cette violence dont la régulation pour l'instant semble difficile, voire impossible. Alors dites-nous, il va y avoir des annonces, dites-nous en quoi ce que vous préparez permettra de juguler l'insulte, le racisme, la violence en ligne.
Alors il faut le rappeler, aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de Français connectés à Internet. Et même de connecter Internet toute la journée. Sur les 18-25 ans, on a même dit qu'il y avait 100% d'entre eux qui ont un smartphone. Ça veut dire qu'il y a le réseau social dans la poche de toute une génération toute la journée. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'on laisse faire les choses, on impacte toute la société. Et quand on agit, eh bien on impacte aussi toute la société. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On n'a jamais eu autant d'actes de harcèlement, d'actes antisémites, d'actes de racisme, d'actes homophobes en ligne qui ciblent une personne ou qui ciblent les communautés. Et là, on a trois acteurs qui sont importants. Il y a la plateforme, qui est l'accélérateur de tous ces contenus, le porteur de tous ces contenus. Il y a ceux qui sont les émetteurs de ces messages, qu'il faut retrouver, qu'il faut condamner, et à qui il faut rappeler que c'est pas possible. Et puis il y a les victimes. Les victimes qui ont été les grands oubliés de tout ce dont on a parlé depuis plusieurs années, et dont il faut s'occuper. Ce qu'on propose aujourd'hui...
Voilà pour le constat. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant?
Il y a un an, président Emmanuel Macron avait dit « Il faut qu'on avance sur ces sujets, il faut qu'on puisse apporter des solutions ». Une commission a été lancée autour de Laetitia Avia, Monsieur Gilles Taïeb et Monsieur Amelal. Ils ont rendu un rapport il y a un peu moins de 6 mois. Depuis, on a travaillé avec tous les ministres concernés. La première, Marlène Schiappa, avec qui nous travaillons au quotidien. Le ministre de la Culture, le ministre de l'Intérieur, la ministre de la Justice.
Donc,
un sujet complexe.
Il
faut être tous ensemble.
Et maintenant alors?
Et maintenant, on a un plan d'action qui touche tout le monde. C'est-à-dire que la solution, elle n'est pas simplement en disant il faut que les plateformes retirent les contenus, sinon elles ont une grosse amende. Ça en fait partie. Mais il faut partir tout à fait à la base. Il faut commencer par l'éducation et l'information. Aujourd'hui, il y a trop de gens qui savent pas. Ensuite, il faut avancer et faciliter la façon de signaler, de détecter ces contenus. Aujourd'hui, il y en a trop qui sont pas signalés. Après, il faut qu'on puisse surveiller. Aujourd'hui, vous vous rendez compte, 100% des clés sont entre les mains des plateformes. Mmh. C'est elles qui décident ce qu'on supprime. C'est elles qui ont la maîtrise du tempo. Aujourd'hui, on va pouvoir contrôler le temps qu'elles vont mettre à supprimer.
Alors,
et s'assurer que les associations de victimes et les associations de liberté individuelle et l'État participent à la définition de ces règles de retrait.
Dites-nous ce qui va changer, ce qui va se passer et que doit-on faire quand on lit des horreurs sur Facebook ou sur Twitter? Qu'est-ce qu'on fait? On bloque la personne, on la signale, mais très souvent ça ne suffit pas.
Le premier objectif, il faut le rappeler, c'est que ces contenus disparaissent le plus vite possible. Parce que plus le contenu est en ligne, plus il touche de nouvelles personnes, plus il blesse de personnes et plus les victimes sont atteintes. Ce matin, on va parler beaucoup de techniques, il faut vraiment qu'on parle des victimes. Tout ce dont vous venez de parler, là aujourd'hui, derrière, il y a des femmes et des hommes qui se sont fait insulter, qui se sont sentis
seuls. Ces femmes et que font les hommes?
Voilà.
Dites-nous.
Signaler. Il faut signaler.
Vous savez ce qui se passe quand on signale?
Eh bien, je sais très bien.
Quasiment systématiquement, vous recevez un message de Twitter qui vous dit « ça n'est pas une insulte, ça ne viole pas nos conditions d'utilisation, merci, au revoir ».
Je sais, je signale à titre personnel plus d'une centaine de messages chaque mois et je reçois très souvent ces messages. C'est exactement pour répondre à cette impunité-là qu'on va aujourd'hui créer autour de ces plateformes une régulation intelligente qui va les obliger à être plus transparentes. Vous savez, le chiffre qu'on donne là, c'est notre expérience personnelle. Aujourd'hui, Twitter, il n'est pas obligé de nous dire combien d'alertes il a reçues et à combien il a répondu. Ça va changer.
Qu'est-ce qui va changer? Si j'écris ce qu'on a pu lire comme horreur à propos d'Emmanuel Macron, par exemple, sur un graffiti du journal Le Monde, Emmanuel Macron, putain de la juiverie internationale. Ou si j'écris sur Kylian Mbappé, enculé de nègre en juivet.
Ce qu'on qu'est-ce a lu que sur le mur d'un RER.
Si j'écris ça sur Facebook, qu'est-ce que je risque? Qu'est-ce qui se passe?
Alors vous avez raison de le rappeler parce qu'on est en train
sur
de...
Sur un compte anonyme,
on
je
est
précise.
En train de faire comme si tout ça n'existait pas aujourd'hui. Ça existe. Chaque année, il y a plusieurs centaines de personnes qui sont attrapées, condamnées pour ce type d'acte. Rappelons-le, ces actes, ils sont illégaux et ils sont aujourd'hui condamnés. Le plan d'action qu'on a lancé, c'est pour qu'on puisse les retrouver plus souvent. Vous avez parlé de l'anonymat. Il se trouve qu'aujourd'hui, à chaque fois qu'on a mené une enquête, on a retrouvé les personnes. C'est très rare qu'on ne retrouve pas la personne. Il faut se le dire aujourd'hui. Quand quelqu'un publie ça, il faut qu'il sache que nous le retrouverons.
En combien de temps vous le retrouvez?
Eh bien,
entre le moment où il a écrit ce message et le moment où vous le retrouvez?
Vous soulignez le problème qu'il y a aujourd'hui. Dans la situation d'aujourd'hui, le problème, c'est que ça met plusieurs mois. Le problème, c'est qu'entre le moment où la personne insulte, le moment où le contenu est signalé, le moment où la police obtient les éléments de la part de la plateforme pour identifier la personne, eh bien, il s'écoule plusieurs semaines, plusieurs mois.
Et après la condamnation en justice, ça met encore plusieurs mois.
Ça met encore plusieurs mois. Donc dans le plan d'action, vous verrez, c'est les deux dernières actions, l'action 9 et l'action 10, c'est comment on accélère très rapidement, un, la transmission de l'information sur l'identité de la personne, et deux, comment on accélère la collaboration avec la justice pour bloquer effectivement le compte, bloquer effectivement le site et les sites miroirs à venir. Ce qui est très important aujourd'hui, c'est le temps. À chaque fois qu'on donne du temps à ces harceleurs, à ces personnes de haine, on leur donne les clés de l'internet. Et ça, il faut vraiment se dire que c'est très grave. On a toute une génération qui passe plusieurs heures par jour dans un espace.
Il va pas falloir tarder alors à avancer sur le plan législatif.
Et c'est pour ça qu'on avance.
Une question, Mounir Majoubi. Léa citait deux horreurs qu'on a pu lire sur des murs bien concrets. Un journal qui publierait ça ou le laisserait écrire sur son site via des commentaires d'internautes, eh bien ça se termine au tribunal. Sur Internet, non. Qu'est-ce qui se passe? Un journal, c'est un éditeur. Un réseau, c'est un hébergeur. L'hébergeur dit, c'est pas de ma faute. Les gens écrivent, moi je suis qu'un tuyau.
C'est justement pour répondre à cette question qu'on a avancée depuis un an.
Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Ils vont devenir éditeurs ou pas?
Il y a deux personnes qui sont responsables, ne l'oublions pas. Il y a celui qui a écrit sujet. Celui-là, on en chope plusieurs centaines par an. Et il faut qu'il sache que maintenant, avec les outils qu'on va mettre en place, c'est plusieurs milliers qu'on attrapera par an. Qu'il n'y a pas d'impunité.
D'accord.
Mais il y a un autre responsable. Vous avez raison.
C'est l'hébergeur.
C'est la plateforme. La plateforme qui est cet accélérateur. On l'a rappelé, maintenant on va se diriger vers un régime de responsabilité nouveau qui sera ni celui de l'hébergeur ni celui de l'éditeur. J'étais hier avec le ministre allemand en charge de ce sujet en Allemagne, celui qui a porté la loi allemande qui a permis de sanctionner les hébergeurs, de sanctionner les plateformes du fait du non-retrait. C'est-à-dire qu'elles devaient le retirer, elles ne l'ont pas fait, une amende. Mais j'ai aussi parlé avec le ministre allemand et il était d'accord avec le fait qu'aujourd'hui, en Allemagne, il n'y a pas de solution sur la vente et sur
la presse. Les hébergeurs vont-ils devenir des éditeurs? Vous dites que vous travaillez sur un autre statut. Lequel? Comment ça s'appelle? Et quelle est sa vertu?
Ce troisième statut, il va permettre d'identifier une plus grande responsabilité pour celui qui aurait dû mettre en place tous les moyens pour qu'on puisse retirer ce contenu en quelques minutes, en quelques heures. Aujourd'hui, nous n'avons rien, ni pour les contrôler, ni pour les sanctionner. Donc demain, il y aura une obligation pour eux d'être transparent sur les moyens qu'ils ont mis en place et des sanctions très importantes si ces moyens ne sont pas mis en place et que ces contenus ne sont pas retirés.
Jack Dorsey, le patron de Twitter, a parlé hier, il a donné une interview hier et il a reconnu, il a dit on n'y arrive pas. On peine à lutter contre le harcèlement en ligne. Et donne ce chiffre, plus d'un tiers des Américains disent avoir été victimes d'une forme sévère de harcèlement ou de haine en ligne en 2018. Un tiers des Américains, ça veut dire des millions et des millions de personnes. Et le patron de Twitter dit on n'y arrive pas en fait.
On sait pas faire.
Et alors, il ne sait pas faire, mais vous savez que j'ai moi-même écrit au patron de Twitter et je lui ai dit, vous ne pouvez pas faire seul. Parce que aujourd'hui, comment fonctionne Twitter pour décider de retirer un contenu ou pas? Eh bien, il y a les community rules, les règles de la communauté. Ces règles, elles sont définies avec l'État, avec les associations? Pas du tout. C'est Jack qui les définit tout seul et qui les publie deux fois par an et qui fait « Hey, salut tout le monde, vous trouverez en pièce jointe les nouvelles règles de la communauté ». Et je lui ai dit « Vous ne pouvez pas décider seul ». Quand il y a un tiers d'une génération qui est sur votre réseau, c'est ensemble qu'on doit définir ces règles. Et aujourd'hui, si on veut lutter contre le harcèlement, la responsabilité des plateformes, c'est de mettre des moyens. Et si on se dit les choses, aujourd'hui, toutes les plateformes ne sont pas à égalité. Certaines ont mis des moyens, certaines n'ont rien mis. Aujourd'hui, Twitter n'est pas exemplaire dans sa façon de traiter les demandes. Et ça, il faut que M. Dorsey, puisque maintenant il a pris conscience, et j'en suis très heureux,
et les Américains demandent à l'État de prendre ses responsabilités et d'avancer par la loi. Mounir Majoubi, la levée de l'anonymat sur Internet, Macron ne cache pas qu'il est pour. Ça a suscité, depuis qu'il l'a dit, beaucoup de débats, beaucoup de critiques. Ce serait une atteinte à la liberté d'expression. Juridiquement, d'abord, est-ce que ça tient la route de demander la levée de l'anonymat, ce qui revient à mettre une condition à l'exercice de la liberté d'expression?
Vous savez que le président de la République répondait à une question et qu'il n'a pas eu près d'une heure pour expliciter ce qu'il y avait derrière cette levée de l'anonymat.
Mais
la levée
de l'anonymat, c'est possible ou pas?
Ça dépend.
De quoi?
C'est pas une levée de l'anonymat générale sur Internet. C'est impossible. On va pas avoir un multipass quand on allume l'ordinateur. Attention, il faut vous identifier avec votre carte d'identification citoyenne. Non. Par contre, il y a des usages sur lesquels on peut plus continuer à fonctionner de façon anonyme. Par exemple, on parle beaucoup de démocratie participative en ligne. Aujourd'hui, on ne va pas continuer à avoir des pétitions qui sont signées par des comptes anonymes. Si on veut que ces pétitions elles soient fortes, il faut qu'elles soient signées par des citoyens et il faut qu'on puisse mettre en place un dispositif qui oblige les gens à s'authentifier. Ça, je pense que c'est très important et ça va donner plus de force aux consultations citoyennes.
Il est bidonné, le grand débat national ?
Il n'est pas bidonné parce que vu le volume des participations et vu le nombre d'événements physiques qui ont lieu partout en France, alors on est sûr qu'il ne sera pas bidonné. Ce qui aurait été dangereux, c'est que ce grand débat national ne se passe que sur Internet. Et donc c'est parce qu'il a lieu physiquement qu'on peut donner plus de consignes de sécurité.
Pardon, pour vous faire préciser ce que l'idée du président de la République, c'est que dans la prochaine loi qui arrive avant l'été, la levée de l'anonymat, c'est uniquement quand on signe des pétitions ?
Non, et vous ne m'avez pas laissé jusqu'au bout, vous me caricaturez un petit peu ce matin.
Non, au contraire, c'est des questions qui sont extrêmement factuelles.
Je vous donne tous les grades.
Et néophyte.
Démocratie en ligne, zéro anonymat, il faut que les gens parlent en tant que citoyens et disent qui ils sont. Quand je joue à Fortnite ou que je suis sur un site de rencontre, si j'ai envie de m'appeler Bisounours 2020, tête d'enclume, heureusement que j'ai le droit d'avoir mon compte comme je le souhaite. Mmh. Et puis vous savez, techniquement, il est impossible d'imposer aux personnes de donner une pièce d'identité pour aller sur Internet en général. Maintenant, il faut redire quelque chose. À chaque fois qu'on a enquêté sur une personne, on a retrouvé ces personnes. Parce qu'aujourd'hui, sur Internet, on est dans un régime qu'on appelle le pseudonymat. Quand quelqu'un insulte sur les réseaux sociaux, grâce à des procédures qui existent, mais qui sont trop lentes, et c'est ça qu'on va accélérer.
On les retrouve.
Qui sont trop lentes. On les retrouve. Il n'y a pas d'anonymat absolu. Et c'est ça qu'il faut qu'on facilite, et c'est ça qu'il faut qu'on protège, la capacité à retrouver quand il y a l'action d'un juge ou d'une enquête, et la capacité à protéger le reste du temps.
Et ce sera dans la loi, donc. C'était ça la question de Léa.
Alors, dans la loi, il y aura les dispositifs pour accélérer la levée de l'anonymat à chaque fois qu'une enquête est lancée, à chaque fois qu'un juge le demande.
En tout cas, eux n'ont pas agi de manière anonyme, mais sous leur vrai nom, à visage découvert. L'affaire de la Ligue du LOL, Mounir Majoubi, du nom de ce groupe de journalistes web qui ont harcelé de nombreuses consoeurs journaliste sur plusieurs années. Cette affaire a explosé vendredi dernier. Elle a suscité une vague de sidération d'abord et de colère. Avez-vous été vous-même effaré ?
J'étais effaré, sidéré. Et ces hommes, parce que c'est quand même très majoritairement des hommes, ont eu, quand on voit ce qui ressort, un comportement méprisable, dangereux. J'ai dit loser, mais en fait loser c'était beaucoup trop bas. J'ai dit loser parce que je voulais pas utiliser une insulte. Là, ce qui me sidère, c'est les témoignages des femmes et des hommes aussi, et notamment souvent homosexuels, qui décrivent un harcèlement ciblé, intelligent, organisé. Ces gens, la plupart d'entre eux, sont surdiplômés. Ils maîtrisent parfaitement le langage. Ils maîtrisent parfaitement ce qui peut être douloureux pour une personne. Encore ce matin, une journaliste qui décrivait comment son intimité était violée en ligne. Comment ces hommes se sont en meute organisés au nom du LOL. Au nom du LOL. C'est-à-dire au nom de la blague qui ne sert à rien. Pour harceler ces personnes. Le plus dur, c'est d'entendre ces femmes qui disent « Pendant 5 ans, j'ai pas pu bosser. J'ai fait 3 ans de psychothérapie pour me relever de tout ça. » C'est ignoble.
Mounir Majoubi, vous n'étiez pas au courant. Vous connaissiez pas la Ligue du LOL.
Et je vais vous dire pire que ça. Non, je ne connaissais pas leur comportement, mais je connaissais beaucoup des hommes qui sont à l'intérieur. Parce qu'il faut rappeler que ces gens-là étaient dans les circuits de la gauche française. Moi, j'ai toujours été un militant sur Internet, donc je les voyais. Ils sont à Télérama, ils sont à Technica, ils sont dans tout ce que nous lisons, dans tout ce que nous faisons au quotidien. Et évidemment que moi, j'étais un utilisateur, mais je vais vous dire, j'ai toujours été un peu le gentil sur Twitter. Moi, j'ai jamais été dans ces bandes-là, et ces gens-là étaient plutôt les gens qui intimidaient les gens sur Internet il y a 10-15 ans, par leur présence, leur force, leur impression d'être les maîtres du monde. Et il y avait une autre génération, parce que, je vous le rappelais, aucun de ceux-là n'était des entrepreneurs, aucun de ceux-là n'était des personnes engagées. Tout cela était les commentateurs du web de l'époque.
Plusieurs membres de cette Ligue du LOL ont été mis à pied par leur entreprise. Est-ce que la sanction vous semble justifiée ou excessive ?
Ces personnes, si à l'époque les gens avaient osé parler, elles auraient pu aller beaucoup plus loin. Les condamnations auraient été beaucoup plus graves. Aujourd'hui, le problème, c'est le temps. C'est le temps qui a passé. Parce que les faits, tels qu'ils sont décrits aujourd'hui, ils sont très graves. Mais malheureusement, ils sont prescrits. Et donc, les employeurs qui ont décidé cela, ils ne l'ont pas fait à la demande ni de l'État, ni des victimes. Ils l'ont fait parce qu'ils se sont dit, je ne sais pas, que peut-être la voix de leur journaliste ou la voix de leur opérateur web ne pouvait plus être crédible dans les temps que nous étions en train de vivre. Donc j'ai pas à dire ce que je pense de ça, mais je pense que leur comportement était méprisable et j'espère que plus maintenant, plus jamais, on aura ce type de comportement et que les victimes parleront plus tôt.
Marlène Schiappa s'inquiète dans le point du climat produit par cette affaire. On ne répare pas un harcèlement par un autre harcèlement, dit-elle. On ne s'en sortira pas si les harceleurs deviennent la cible d'insultes à leur tour, ce qui se passe depuis quelques jours maintenant pour ces hommes-là. Est-ce que c'est pas problématique en démocratie que la justice se rende sur Twitter et pas dans un tribunal ?
Je pense que la justice ne se rend pas sur Twitter. Il aurait fallu qu'elle se rende dans un tribunal.
En l'occurrence, c'est un bannissement social et une mise à pied de leur travail.
Vous dites cela aujourd'hui, vous voyez très bien que si ces personnes avaient été identifiées il y a 6-7 ans dans la période de non-prescription, de façon très normale, on aurait tous regardé ces personnes se faire juger, se faire condamner, et on aurait tous trouvé ça très juste. Donc vous n'avez pas me demander de commenter aujourd'hui si je trouve ça très injuste que ces personnes se fassent morigéner sur les réseaux sociaux.
C'est un vrai problème, c'est une vraie question de droit.
Je veux juste vous dire une chose. Regardez ce qu'ils vivent aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas l'impression qu'ils vivent ce qu'ils ont fait vivre auparavant et qu'il ne s'agit pas d'une sanction. C'est très grave ce qu'ils ont fait. C'est très grave les conséquences qu'il y a sur ces victimes. Les témoignages que j'ai lus de gens qui ont foiré leur carrière, foiré leur vie à cause d'eux.
Et justement, vous dites les gens, c'est souvent des femmes. Loin de moi l'idée d'avoir une vision manichéenne de la société avec les femmes qui seraient toutes des blanches colombes et les hommes des affreux harceleurs. Mais tout de même, c'est quand même étonnant, et j'en parle souvent, je pose la question souvent aux femmes politiques. Elles prennent beaucoup plus cher, les femmes, que ce soit ces journalistes harcelés ou les femmes en général. Pourquoi? Comment? Elles prennent sur leur physique, elles prennent extrêmement cher. Comment vous l'expliquez que les femmes sont particulièrement ciblées?
Malheureusement, elles prennent extrêmement cher sur Internet, mais extrêmement cher dans la vie. On n'a pas fini le grand combat culturel. L'égalité femmes-hommes, vous voyez bien qu'elle passe par une prise de conscience collective et culturelle, et que dans les milieux du travail, dans les milieux politiques et sur Internet, où on a l'impression qu'on est plus protégé pour dire des horreurs, elles sont la première cible. Elles sont sexualisées, elles sont désignées comme des objets, elles sont utilisées à d'autres fins. Enfin, vous vous rendez compte, c'est le pire de la société accéléré par les réseaux sociaux. Donc là, le combat, il est collectif et malheureusement, il prendra encore du temps.
Deux questions avant d'aller au standard, Mounir Majoubi. Emmanuel Macron n'a pas exclut l'idée de créer une instance de vérification, de certification des informations des journalistes, instance qui serait composée de journalistes mais financée par l'État. Que répondez-vous à ceux qui appellent ça tout simplement une mise sous tutelle des médias?
Ce n'est pas très exactement la proposition du président de la République. Il propose que entre pairs, c'est-à-dire entre...
Vous allez nous expliquer alors.
Il propose que entre journalistes, pas avec l'État, c'est pas l'État qui va dire ce qui est vrai, ce qui est pas vrai. Ça, on sait comment ça s'appelle.
Financé par l'État, a-t-il dit.
Oui, enfin, je vous rappelle que c'est plutôt une bonne chose quand les choses sont financées par l'État, quand elles permettent d'augmenter l'intérêt général. Là, c'est entre pairs.
Ouais, enfin, c'est des journaux. Bon,
entre pairs et pas un organisme certificateur de la vérité où chaque rédaction serait amenée à envoyer chaque heure ses articles pour savoir ce qui est vrai ou ce qui n'est pas vrai.
Expliquez-moi la logique d'une telle proposition, parce qu'on a affaire avec des journalistes, à des gens dont le métier de base est de produire des faits vérifiés et aujourd'hui de faire du fact-checking pour lutter contre le flot de fausses nouvelles, d'intox, de théories du complot. Et donc ce sont les journalistes vérificateurs dont il faut s'occuper en premier. Enfin, on marche sur la tête,
monsieur,
non,
Demorand, je partage votre indignation.
J'aimerais comprendre. C'est pas une indignation, sincère incompréhension.
Je vous dis que ce dont parle le président de la République, c'est très exactement ce dont vous parlez. C'est comment on permet aux journalistes entre eux de définir quelles sont les meilleures pratiques entre eux que devrait être celle de l'information. C'est pas de dire il faut qu'on contrôle les journalistes. C'est comment les journalistes entre eux peuvent dire quelles sont les pratiques du journaliste en 2018.
Mais ils le font déjà de fait, non?
Quand a eu lieu la dernière discussion que vous avez eue avec vos pairs pour discuter ensemble de vos pratiques ces dernières années?
Non, mais permanence. Sur les gilets jaunes, on se trouve
tout le temps.
Sur les gilets jaunes, vous
rendez compte.
C'est notamment à cette occasion-là que beaucoup de journalistes se sont posés la question sur et ceux-là, sont-ils journalistes? Et là, ça pose cette question. Moi, je souhaite que ce soit des journalistes qui se posent la question de qui sont ces producteurs d'informations qui ne sont pas des journalistes? Qu'est-ce que c'est que ces personnes qui sont journalistes mais dont on se demande si elles sont vraiment producteurs d'informations?
Non, mais il faut peut-être, la question, en fait, Mounir Majoubi, il faut peut-être s'occuper du moment où les tuyaux d'Internet deviennent parfois des égouts avant de s'occuper des gens qui viennent les nettoyer, non?
Encore une fois, c'est à leur service que le président prépare ça. Il n'y a pas une volonté de mettre les journalistes sous contrôle.
Merci
de
nous l'apprendre et de le démentir.
Je le redis très très fort. Jamais, et pas notre majorité, ne proposerait un organisme certificateur de la vérité. Tout de même, c'est la pire des science-fiction possibles.
Elisabeth est en ligne. Bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour, à tous et à toutes. Vous parlez d'égout et justement, je suis tombée justement sur Internet sur un égout et j'ai voulu le dénoncer sur un site gouvernemental qui s'appelle Signalement, internetsignalement.com. Je l'ai signalé également parce que je le vois sur un moteur de recherche et pas sur un autre. Donc je l'ai signalé à ce moteur de recherche J'ai dû le signaler à peu près vers le mois d'octobre et je le vois toujours apparaître, ce site horrible.
Merci Elisabeth pour ce témoignage. Comment peut-il être supprimé ce site et pourquoi est-il encore en ligne, Mounir Majoubi ?
Alors vous savez,
signalé sur une plateforme, hein, Pharos.
Vous venez encore de le dire. Vous savez, la liberté d'expression, c'est très important. La liberté d'insulter n'est pas une liberté fondamentale. Mais pour faire fermer et bloquer un site, il faut une décision d'un juge. Aujourd'hui, on a un problème. C'est que souvent, on arrive à obtenir la décision d'un juge, à faire bloquer le site. Mais dans la minute qui suit le blocage, on a des sites miroirs. C'est-à-dire un site dont l'adresse n'est pas exactement pareille, mais qui reprend 100% du contenu. Là, dans le plan d'action qu'on propose, c'est-à-dire avant l'été, on va proposer un élargissement de la capacité du juge à faire bloquer un site et tous ces sites miroirs à venir. Et ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, on attendait plusieurs mois des décisions pour bloquer des sites profondément antisémites et racistes qui étaient bloqués après décision et qui réouvraient. Mmh. Et donc, on relançait une procédure et c'était terrible.
On retourne au standard. Bonjour Claire.
Bonjour.
Bienvenue,
bonjour.
On vous écoute.
Bienvenue, bonjour. Alors déjà, je voudrais juste, bonjour Monsieur Majoubi, juste vous signaler un truc. Sur Facebook, quand votre compte est signalé, Facebook exige la carte d'identité pour le réouvrir. Donc effectivement, vous dites que la loi ne nous oblige pas, mais Facebook le fait, c'est très gênant, en particulier pour les personnes qui sont transsexuelles. Ma question, c'est pas ça. Ma question, c'est que voilà, je suis contributrice sur Voxbuster et sur d'autres groupes.
Oui.
Ça fait plusieurs fois que nous signalons des contenus, bon, alors moi, dans mon cas, c'est plutôt la santé et l'homosexualité. Donc des contenus qui posent des gros problèmes, entre autres, en ce qui concerne les intox sur l'homosexualité, des pages et des publications profondément LGBTQ-phobes. Le problème, c'est que quand je les signale, Facebook me dit non, ça contrevient pas aux règles. Et il m'est arrivé deux, trois fois une aventure pas cool. C'est qu'en signalant ces pages, je me suis quand même retrouvée avec un mot de Facebook, comme quoi si je continuais à les signaler, ils allaient bloquer mon compte pour harcèlement. Alors je comprends à quoi ça sert le harcèlement, c'est pour éviter que n'importe qui signale n'importe quoi. Sauf que là, on est clairement sur l'appel à la haine. Hein.
Mmh. Et le harcèlement réponse à une volonté de faire appliquer le droit et la loi, oui. c'est quand même baroque. Merci pour cette question, Mounir Majoubi.
Je partage.
Baroque pour pas dire délirant.
Je partage complètement votre diagnostic et c'est pour ça que ce que je vous dis ce matin, c'est que les plateformes ne doivent pas avoir toutes les clés de la modération des contenus en ligne. C'est pour ça que ce que nous proposons, c'est que face à ces demandes-là, la plateforme ne puisse pas décider seule que régulièrement elle soit obligée en toute transparence de montrer ce qu'elle a accepté, ce qu'elle a refusé. Et que des associations qui représentent les victimes, qui représentent des minorités, qui représentent les libertés individuelles, mais aussi la force publique, soient mobilisées autour de la transparence la plus absolue sur ces signalements et qu'on puisse dire, mais dis donc là, comment avez-vous pu ne pas supprimer ces contenus-là ? Aujourd'hui, zéro transparence. Demain, il y aura vraiment
cette
collaboration.
Pourquoi ils parviennent à 100% par moralisme, et après tout c'est leur choix, à supprimer des photos de corps nus ou des œuvres d'art montrant des corps nus ? Ça, il n'y a pas de problème, la morale règne et elle est appliquée, mais en revanche, pour tout le reste, l'algorithme ne sait pas. Comment on explique ça ?
On explique ça parce qu'il le décide tout seul. La nudité, c'était le sujet que j'ai adressé à Jacques Dorsay en lui disant, vous savez quoi ? On ne peut pas continuer dans un monde où c'est
donc,
une plateforme privée qui décide.
Donc s'il voulait s'occuper de la haine, il pourrait régler le problème.
Évidemment. Sur des sujets très graves, redisons-le, sur le terrorisme, les plateformes sont exemplaires. Aujourd'hui, les contenus terroristes sont retirés dans l'heure et même avant. Et même avant même qu'ils soient publiés. Sur la nudité, vous l'avez rappelé, comme la plupart de ces plateformes sont plutôt américaines, c'est une priorité pour elles de supprimer toute forme de nudité sur leur plateforme. Eh bien, ce que nous leur demandons aujourd'hui, c'est d'accepter aussi notre culture. Et chez nous, la tolérance, c'est le plus important. Et donc, le harcèlement n'a plus sa place sur Internet.
Mounir Majoubi, comment vous voyez les réseaux sociaux dans 5 ans ? Ce que je veux dire, c'est est-ce qu'on vit en ce moment une période transitoire, une période adolescente des réseaux sociaux où tout est permis, sans aucune régulation, on peut tout dire, on peut tout insulter, on peut tout écrire, et dans 5 ans, ça sera régulé partout dans le monde, ou vous pensez que non, c'est impossible et c'est trop tard, et de toutes les manières, ça sera ça, il faut s'y habituer.
On est dans une phase de maturité. C'est-à-dire que, au démarrage, pendant près de 15 ans, il y avait sur Internet que ceux qui maîtrisaient Internet. Aujourd'hui, sur Internet, il y a tout le monde. Et comme il y a tout le monde, il faut que Internet ressemble à la vraie vie. C'est-à-dire beaucoup de liberté, mais aussi beaucoup de règles. Et pendant longtemps, on a cru qu'il n'y avait pas de règles. Donc maintenant, il faut plus de règles. Il faut aussi qu'on ait plus de comportements positifs. Vous savez, aujourd'hui, ceux qui détestent, ceux qui haïssent, parlent 10 fois, 100 fois plus que ceux qui soutiennent et qui aiment. Et donc, je crois, moi, dans 5 ans, qu'on peut arriver à un Internet du respect, à un Internet de l'amour, et pas un Internet de la haine. Mais pour ça, il va falloir
un
poursuivre.
Un peu bisounours, ça, Internet de l'amour.
Bah parce que c'est la Saint-Valentin, alors. Mais...
Vous avez le droit, un jour.
Un jour, ce sera le seul. Mais aujourd'hui, on va condamner, on va attraper ces harceleurs, on va faire qu'ils arrêtent. Et j'invite tous les citoyens ici, qui, quand ils sont sur Internet, à soutenir positivement les gens qu'ils aiment, à soutenir positivement ceux qui s'expriment, à parler positivement à ceux qui haïssent, et à leur dire « Stop ! Pourquoi lui parles-tu comme ça ?» Et si, collectivement, on se réapproprie Internet, alors on aura réussi.
Merci Mounir Majoubi, secrétaire d'État chargé du numérique. Merci d'avoir été au micro d'Inter ce matin. Le carrefour du 7-9 à suivre, 8h46.